Voilà, Paris, ça. Oui, ça va, ça va bien. Alors, la caméra
passe. What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
Not wounded, sir.
Aggredisci.
Ma stata forte, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dici? Come fa che dici?
Amateurs et fous de cinéma d'Ardèche, en activité ou à la retraite, bienvenue. Vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez Cinémascope, le magazine du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, on va parler des films About Kim Soo-hee de Julie Young, Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, Sur les chemins noirs de Denis Imbert et peut-être un petit peu de Sweeney Todd de Tim Burton. En compagnie, tout ça, de nos joyeux cinéphiles, Mathieu. Bonjour Mathieu.
Salut.
Olivier.
Bonjour à toutes et à tous.
Didier.
Et bonjour.
Et Sylvain, toujours là, fidèle au poste.
Salut, salut.
Et bonjour Sophie.
Et merci, bonjour.
Heureusement qu'elle est là.
Eh bien c'est parti, on plonge tout de suite ensemble dans l'ailleurs.
저는 기본체도 못 미쳐. 그래가지고 습도 못.
전체 콜센터 다 통틀어. 우리 팀이 꼴찌죠. 어서요.
가만 보니까 소희가 의지가 없는 것 같아. 너 이래가지고 못 버틴다.
사회생활이다 그렇죠.
버텨야 된다잉.
전투사 형사계 오유진 경감입니다. 각 학교 현장 실습 감독하는 책임자가 누굽니까? 아주 빠릿빠릿한 줄 알고 오냐오냐 했더니
너 인마 그렇게 해가지고 학교에 미치는 데미지가 얼마나 큰지는 알아?
너 뭐 하는 거야 대체?
어? 경찰이 수사를 안 해주니까 그렇지. 그것들을 조사해야 된다고! 조사해야 돼요! 왜 가만히 있었냐고.
C'était pas du Wolof ou de l'indonésien, mais bien du coréen, avec About Kim Soo-hee de Julie Young. Didier, tu es allé le voir ?
Oui, c'est un excellent film, et qui est un film coréen qui prend pour racine un fait divers, une réalité, une histoire qui s'est véritablement passée en Corée, mais qu'on peut très facilement, on verra pourquoi, transposer chez nous en France et je pense dans à peu près tous les pays du monde aujourd'hui. Donc le personnage principal au début du film s'appelle Kim, c'est une lycéenne qui termine ses études et qui doit les valider, puisque ça se passe comme ça là-bas, par un stage en entreprise. Et ça semble très compliqué à trouver, et si bien que son professeur principal est très très heureux de lui dire « Mais je t'ai trouvé un stage absolument extraordinaire, tu vas voir, c'est formidable, tu pouvais pas rêver mieux. » Et c'est chez Korean Telecom, ce qui correspond un peu à notre France Telecom, à Orange chez nous. Et donc Kim va intégrer un centre d'appel qui est normalement destiné aux abonnés qui veulent résilier leur abonnement. Dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, c'est comment empêcher les abonnés de résilier leur abonnement. C'est absolument épouvantable, avec obligation de résultat. Et Kim, la gamine, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a un caractère, et ça, tout de suite, c'est posé, puisque la première séquence du film, elle fait comme pas mal d'ados là-bas, elle fait de la danse un peu, ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas pop, mais il y a un nom particulier, enfin bref, peu importe. Et la première séquence, c'est Kim qui s'entraîne devant un miroir, pour réussir un pas qui a l'air relativement compliqué et qui, une fois, deux fois, sept fois, huit fois, tombe et se relève à chaque fois et refait. Donc, tout de suite, on voit bien que c'est quelqu'un qui a un caractère, qui a une force, qui a quelque chose comme ça. Et malgré tout, elle va énormément souffrir, elle va finir par être broyée par cette machine complètement folle où il faut absolument des résultats. Et pour avoir ces résultats, on est amené à faire des choses absolument effrayant, dire un abonné qui appelle pour résilier son abonnement, donc elle fait tout son baratin, etc. Et le type fond en larmes en dit écoutez, je suis désolé, je peux pas, ma femme vient de mourir et tout. Et les seules réponses qu'elle a, c'est du style mais vous savez que dans 3 mois, on peut vous faire une remise, vous savez que voilà, c'est ça. Et on est obligé, elle est obligée, ils sont tous et toutes obligés de passer par là. Et on s'aperçoit que le manager qui met une pression énorme, lui-même a une pression de son chef qui lui-même a une pression, etc. Enfin, ça n'en finit plus. Et l'originalité du film, enfin une des originalités du film, c'est presque deux films. C'est-à-dire qu'à la moitié du film, le personnage principal disparaît, ce qui est relativement rare. Enfin, on avait vu ça dans Psychose de Hitchcock, hein, par exemple, où au bout de 30 ou 40 minutes, le personnage principal, boum, est éjecté et on passe à autre chose. Et là, sans faire de mauvais rapprochements avec Psychose, c'est un peu la même chose. Et puis, puisqu'on va suivre à partir de la deuxième partie du film, une policière qui va mener une enquête sur ses pratiques plus que douteuses. Ce qui est intéressant au niveau cinéma, c'est que donc cette jeune réalisatrice Julie Young, donc dont c'est le second film, avait tourné il y a quelques années un premier film qui s'appelait A Girl at My Door, qui racontait l'histoire déjà d'une jeune policière affectée dans une zone rurale isolée qui allait prendre, pour faire court, la défense d'une jeune fille. Et c'est la même actrice. C'est la même actrice, donc on a deux femmes policières qui vont, dans deux films différents, dans deux cadres différents, prendre la défense d'une jeune femme que la société est en train de broyer, en fait. C'est, voilà. Donc on a au bout du compte un portrait vraiment là au vitriol. Alors le film a été un énorme succès en Corée, puisque cette histoire, ce fait divers, a été très popularisé. Enfin, ça a fait l'objet d'un électrochoc, hein. Là-bas, ça a été énorme. Donc le film a été un très très gros succès, et c'est vraiment le portrait au vitriol de la société ultralibérale qui joue avec les extrêmes comme une machine folle qui broie les personnes sans aucun remords. On a des séquences qui sont effrayantes à ce niveau-là, dans l'indifférence totale de la société et de ses institutions, puisque au-delà de cette société privée de télécommunications, le rôle de l'enseignement est vraiment remis en cause également. Alors, je disais que c'est un film coréen, mais que ça peut nous parler aussi, puisque, évidemment, on pense immédiatement à ce qui s'est passé à France Télécom il y a quelques années, avec une vague de suicides inédites jusque-là. Donc, c'est vraiment un film à voir, je pense, pour sa thématique, et puis également pour ces deux comédiennes qui vraiment portent le film d'une façon assez, assez phénoménale. Voilà.
About Kim So-hae. Moi, j'avais une question. Est-ce que on a pas mal de films coréens qui nous arrivent en France avec toujours cette force, cette capacité de dénonciation d'une société qui broie les personnes, une société libérale, un capitalisme forcené. Est-ce que c'est la production même des films coréens? Ou alors, simplement, ce ne sont que ces films-là qui arrivent en France?
Je ne suis pas spécialiste du cinéma coréen. Ce que je sais, c'est que c'est l'un des cinémas les plus productifs au monde, et que très peu de films, en fait, nous arrivent de Corée, qu'il y a énormément de films de divertissement, dont très peu arrivent jusqu'ici. Nous, comme dans pas mal de pays, d'ailleurs, arrivent en France, je dirais, le haut du panier. Enfin, ouais, voilà, c'est beaucoup.
Et en l'occurrence, c'est beaucoup le haut du panier. Hein. Les films coréens ces dernières années, c'est souvent incroyable.
C'est très, très fort. Et y compris dans les films de genre. Pour moi, le cinéma fantastique aujourd'hui, c'est le cinéma coréen. C'est ici qu'on a les plus belles surprises. On a vu des choses que même les Américains ne savent pas faire, à mon sens.
donc About Kim So-hee, c'est à voir cette semaine à Aubenas. On revient en France.
Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans.
Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ?
C'est des victimes qui rencontrent des détenus.
Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement.
J'aimerais revoir mon frère, j'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses.
J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette.
J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux.
Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement ?
Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants.
On met des petites claques, c'est pour impressionner.
Mais des claques, c'est des coups.
En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie.
Assume ! Nous sors pas tes excuses débiles, là !
Tu le prépares pas, en fait ! Moi, tu me prépares ! Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers !
Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ben ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu.
Je comprends pas cette violence.
On est là pour favoriser leur réparation.
J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère.
On entend toutes les nuances dans la voix de Adèle Exarchopoulos. Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry. Donc avec Adèle Exarchopoulos, Dali Ben Salah, Laila Bekti, Elodie Bouchez, Suliane Brahim, Gilles Lelouch notamment.
Miu Miu, Denis Podalides.
Exactement, ouais. Miu Miu qui est magnifique dans ce film, extrêmement touchante. Un très beau film que tu as vu,
oui,
Olivier.
Oui, que j'ai vu avec... À la fois, je pensais que ça allait seulement m'intéresser, mais ça m'a beaucoup touché. Et en particulier, ben, tu as déjà donné une raison, à savoir le casting et le jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, les différents acteurs et actrices que tu as cités sont, je vais parler un peu bêtement, sportivement, mais ils sont au mieux de leur forme, quoi, d'une certaine manière. Ils sont absolument extraordinaires d'expressivité et de nuance dans l'expression, comme tu l'as souligné immédiatement. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, je suis un petit peu obligé de parler des questions de justice. Je vais essayer d'être très très rapide, mais je crois que c'est important.
C'est intéressant, oui, puisque on l'a entendu, on parle de justice restaurative.
Je voudrais quand même essayer d'apporter un tout petit éclairage modeste. La justice, pour beaucoup d'entre nous, elle est symbolisée par la balance et le glaive. Hein, c'est un symbole qui est très répandu, presque universel, parce que comme tous les symboles, il montre ce qu'il dit. Parce que effectivement, juger, c'est peser et trancher. Et la justice rationnelle, la justice dictée par l'intelligence, elle est ce qu'on appelle en philosophie distributive. C'est-à-dire que, normalement, le juge punit une faute et récompense une bonne action. Et d'une certaine manière, compense un mal qui a été fait. C'est ça le but du juge. Et c'est pour ça qu'il utilise une balance... pour peser. Normalement, la justice, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, parce que nous sommes égaux. Qu'un œil vaut un œil, une dent, une dent. Et donc, la justice, elle est là d'abord pour éviter la vengeance, pour mettre immédiatement fin à la vengeance. La justice distributive, elle doit être suscitée avant même que le premier acte de vengeance advienne.
C'est un cadre. Et là, on va y revenir. Et c'est alors, un cadre pour éviter les violences.
Ici, voilà, c'est ça. Mais alors ici, on fait un pas de plus, et c'est ça qui me paraît important, c'est qu'alors on parle de justice restaurative. C'est-à-dire, l'idée, c'est que, au-delà d'une compensation, on voudrait presque aboutir, par l'action de la justice, à une sorte d'effacement du malheur. Il faudrait que le malheur causé, celui qui a causé le malheur, celui ou celle qui a reçu du malheur, puisse dépasser ça. C'est-à-dire se restaurer, au sens où on se restaure quand on mange. Se restaurer, ou au sens où on restaure un très beau Notre-Dame de Paris. Voilà, il faudrait se restaurer. Alors, ce qui est préoccupant, ce qui fait que ce film d'ailleurs est à la fois très réussi et peut-être discutable, je pense qu'on va le dire, c'est que effectivement on sent qu'on fait un pas très loin, quelque part au-delà d'un simple calcul de la distribution de ce qui convient. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, et c'est abordé dans le film, on aborde la question du pardon.
Oui, oui.
Est-ce que tout est pardonnable ? Est-ce que je peux pardonner ? C'est une question qui s'est posée à un philosophe comme Yankelevitch. Est-ce que je peux pardonner aux Allemands ? Est-ce que je peux pardonner aux nazis ?
Alors, sa réponse est non à Yankelevitch.
Oui.
Pour le coup.
Mais la réponse de Lévinas serait plutôt oui. Enfin, bon.
Mais, voilà. Mais alors, ce film parle de la justice restaurative qui est en place en France depuis 2014, qui est beaucoup plus ancienne, notamment au Canada. C'est une justice qui n'est pas pour tout le monde. Et dans ce film, d'ailleurs, on le voyait, un gros, gros accompagnement. Tout est fait pour accompagner à la fois les victimes et les auteurs des délits ou des crimes. Et c'est du cousu humain, en fait. C'est du sur-mesure.
Et il faut ajouter peut-être rapidement une chose. Dans la justice restaurative, le délinquant ou le criminel, etc., ne reçoit aucune récompense pour participer à cette justice, à ce processus de justice. C'est-à-dire que c'est gratuit.
C'est un cheminement individuel.
C'est comme de demander pardon. C'est-à-dire que c'est un cheminement individuel et volontaire qui ne contient en lui-même aucune récompense d'aucune sorte. Tu n'auras pas de remise de peine si tu participes au truc, etc. C'est important de le dire pour expliquer à quel point on dépasse le cadre. On retrouve un autre cadre, je suis bien d'accord. Mais on dépasse le cadre de la justice distributive.
Oui, tu parles du cadre. Donc j'ai vu ce film aussi qui m'a beaucoup touché et qui m'a fait réfléchir énormément. C'est un film, ouais, tu disais, pour moi c'est un film encadré. C'est un film cadré, encadré, sécurisé, précis, solide, à la fois pour les comédiens, parce que c'est très écrit, c'est comme ça que Jeanne et Eri travaillent, pour les spectateurs, parce que c'est un film bouclé, au cadrage très serré. Ouais. Moi j'ai vraiment eu l'impression d'être tenu pendant toute la durée du film. Cadrage serré sur les visages notamment, mais on va en parler parce que les visages du titre, pour moi, c'est un peu tout. Oui. C'est vraiment ce que transporte ce film. C'est les visages et le visage, voilà, oui. On en parlera peut-être, mais au sens de Lévinas, alors je vais pas trop je suis à côté d'un philosophe, mais voilà, ce que peut le visage, en fait. Ce que le visage, c'est les dénuements, oui. C'est l'autre et misère, dénuement, et on est en face de cette subjectivité, et regarder la responsabilité qu'on a pour l'autre en regardant simplement ce visage, pour l'autre et pour tous les autres.
Et constater le malheur qu'on a fait à l'autre. Est-ce que je peux ajouter que de ce fait, à partir de ce que tu expliques là, de ce fait, le film dure 1h58, on ne n'entend que des dialogues, on ne voit que des visages, tu le soulignes très très bien, et on est pris comme dans un film d'action pratiquement.
Exactement.
Parce que parce que énormément de choses se passent sur les visages.
C'est très dense. Les paysages, le décor, c'est les visages.
Voilà.
Tout y est et tout passe par là. Et moi, ça me fait penser un peu dans un tout autre genre, mais quand même à la série En Thérapie, où toute l'action, pour la première fois, toute l'action se passait à travers des dialogues et à travers des visages. On se disait, oh là là, on va s'emmerder. Pas du tout. C'est passionnant.
Oui.
C'est passionnant. Tout est dans l'action, c'est le langage.
Oui.
Et d'ailleurs, oui. Le rôle du dialogue est très très important, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Là, c'est très écrit. Par exemple, il y a des petits moments comme ça où on parle justement des mots qu'on utilise pour bien se faire comprendre. En fait, tout ce film, ça va peut-être un petit peu à rebrousse-poil de ce qu'on vit actuellement, où on se polarise complètement, où on est dans le clash. Là, c'est tout sauf ça. Comment on arrive à faire dialoguer, à faire s'entendre, à faire se comprendre certaines personnes dans un espace commun.
Ouais. C'est pour ça que le film est très porteur d'émotions, provoque de l'émotion, et si on devait vraiment trouver une limite, elle serait peut-être là aussi. C'est-à-dire qu'on peut trouver le film un petit peu optimiste, peut-être un petit peu bien pensant. Enfin, je ne sais pas, là j'exagère. En tout cas, moi j'ai assisté à une séance où la moitié de la salle était pleine, donc c'est quand même assez considérable, et où l'émotion des gens, il y avait pas mal de gens que je connaissais en plus, l'émotion des gens à la fin du film était palpable, hein. Il y avait des yeux qui brillaient quand même à la fin du film, hein. Sérieusement, je parle sérieusement, bien sûr.
Oui, il y avait pas mal d'émotions, je redis Miu Miu est formidable, justement elle arrive à...
Gilles Lelouch aussi, qui était dans Pupille de Jeannery aussi, et qui est capable de dans la retenue,
c'est ça.
De porter énormément d'émotions également.
C'est ça, mais tout est là, hein. C'est vraiment dans ses visages et dans ses corps qui sont tout en retenue, tout en émotion, tout humain en fait, on est face à de l'humain. Ouais. Voilà, c'est vraiment un film humain, et donc avec tout ce que ça génère, c'est-à-dire pas mal de nuances où on se rend compte que la colère, la peur, la violence aussi est de chaque côté. Ouais. Du côté bien évidemment des agresseurs, mais aussi du côté des victimes, et que quelquefois la violence elle peut être socialement acceptée. Il y a une scène où tout d'un coup l'un des agresseurs a de l'empathie pour l'une des victimes, ouais. Et lui dit mais attends, mais ce que t'as eu c'est dégueulasse, ouais. Moi ce gars là il revient mais je lui pète la tête, et tout le monde dit ouais. Voilà, la violence est socialement acceptée
et il faut l'arrêter. Et même le discours de Denis Podalydès, qui est le formateur à la médiation, est aussi, comme tu le dis, très écrit, très précis, et permet de bien comprendre ce qui est en jeu, quoi.
Donc je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry à voir cette semaine à Privas, Aubenas, Le Teil, Cruas et Vals-les-Bains. On parle maintenant d'une autre réparation, celle d'un homme après un accident.
Je peux vous poser une question ?
Bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge ?
Je pense que c'est vous, mademoiselle. Pardon.
Allez, Jacques, un dernier verre !
Oh, c'est malin.
Pierre ! Non, non ! Pierre ! Pierre !
J'étais tombé du rebord de la nuit. M'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Quand c'était dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute. Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation.
Je vais partir du sud-est. En direction de la Manche, jusqu'à la mer.
Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience.
Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs.
Hey, t'as plus de 1000 bornes, là.
1003.
Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit, avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche.
Les néo-ruraux, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Les motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac.
Jean Dujardin qu'on vient d'entendre sur Les Chemins Noirs, film de Denis Imbert, une libre adaptation du livre de Sylvain Tesson paru en 2016 du même titre, Sur Les Chemins Noirs. Denis Imbert qui avait déjà tourné dans la nature et les montagnes pour son film Mystère, pour son précédent film. Mathieu, tu as vu le film et Olivier, tu as lu le livre.
Oui, alors on va pas faire
que
un livre, un film. Hein.
Que va-t-il se passer, Mathieu, sur le film?
Ben voilà, ben comme tu l'as très bien dit, Sophie, c'est une adaptation du livre éponyme de Sylvain Tesson qui dans ce film change de nom. qui s'appelle donc Pierre, écrivain explorateur, mais un soir, sa vie va changer. Il va faire une chute de plusieurs étages, et à la sortie de son coma profond, il va se faire la promesse de traverser la France à pied, du Mercantour au Cotentin, contre les différents avis médicaux, les avis familiaux. Et voilà, c'est vraiment le film qui va... Alors déjà, le film a touché, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un film qui ne sera pas apprécié c'est un film qui va diviser, voilà. Parce qu'il propose des choses qui sont à la fois très contemplatives, ce n'est pas du tout, voilà, je trouve que c'est très bien amené. Ce qui m'a particulièrement plu, ce sont les prises de parole en voix off, du coup, du personnage Pierre, donc... Il me semble que ce sont les citations du livre de Sylvain Tesson. Elles sont bien placées, bien amenées. C'est un film qui est sans prétention. On pourra discuter avec Olivier sur d'autres interventions de Sylvain Tesson dans le cinéma ou en écriture.
Mais... Sans prétention, m'intéresses.
C'est ça, c'est ce film a...
C'est là que ça divise.
J'ai l'impression que lors de l'élaboration de ce film, ils se sont posés les bonnes questions. Ce qui fait que ça fait un film très épuré, très juste. Où on a envie d'y croire et où les choix qui ont été faits, je trouve, sont les bons. Il n'y a jamais de mélodrame autour de sa blessure grave, le jour où il a frôlé la mort. Il y a juste une remise en question sur sa vie passée, sur sa vie future. Quelque chose qui, en tant que spectateur, on peut tous s'identifier facilement. Ça parle de projet. Une vie sans projet, c'est un peu mourir. Ça parle des gens qui nous abandonnent après un moment difficile dans la vie. Ça parle du succès, mais que rien n'est acquis, que tout peut être remis en question du jour au lendemain. En termes de cinéma et d'image, on a de très belles images à travers plusieurs parcs nationaux naturels de France, du Mercantour. En Ardèche, on a droit au cliché ardéchois de Vallon-Pont d'Arc, c'est comme ça, c'est l'image. Mais ça reste très beau, c'est pas du tout tape à l'œil, c'est pas carte postale, c'est ça que je veux dire. C'est très bien filmé. Bien sûr, Jean Dujardin, il est parfaitement juste, je l'ai trouvé très touchant. Encore une fois, ça suit ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que les citations du livre de Sylvain Tesson sont très bien placées, et par le jeu d'acteur, par le fait de... c'est un film touchant parce que c'est un film qui réconcilie avec la solitude. Plusieurs fois, il va rencontrer des marcheurs, des randonneurs. Ils vont dire « Mais tu n'as pas peur de marcher seul ?» Même sa famille lui demande. Il le faisait déjà avant son accident, mais alors après son accident, ça y est, le drame est arrivé au niveau familial et les amis. Du coup, tout le monde se fait du souci. Il y a une espèce d'infantilisation de Pierre à travers ses randonnées. Et lui, il ne veut pas ça. Et on sent dans le film qu'il veut il a envie de se donner du challenge pour se prouver à lui-même et par la même aux autres et du coup aux lecteurs grâce à son livre, parce qu'on voit écrire son livre. Donc voilà, c'est un film assez juste qui m'a touché. J'ai été ému plusieurs fois et je le recommande.
Tu conseilles ce film. Olivier, est-ce que tu as, en quelques mots, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, est-ce que ça résonne en toi avec ta lecture du livre ?
Bien sûr, et l'itinéraire, les choix de Sylvain Tesson sont parfaitement estimables, et loin de moi l'idée de remettre en cause ça, sauf... Si vous voulez que Sylvain Tesson, sa marque de fabrique, c'est le toujours plus, c'est être le plus fort, le meilleur, aller le plus haut, le plus loin, le plus vite. Et c'est pour ça qu'il est tombé, d'une certaine manière. Parce qu'il fallait boire un peu plus, parce qu'il fallait grimper un peu plus haut, dans un endroit où il y avait un peu moins de prise, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Alors, évidemment que son accident provoque en lui une sorte de conversion apparente, à l'humilité, à la petitesse. Hein, il se fait en quelque sorte le promoteur de l'abandon, le promoteur du... La chose qui me dérange et qui m'avait déjà dérangé dans La Panthère des Neiges, parce qu'on a la même spiritualité qui se dégage de l'humilité, etc., c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire que Sylvain Tesson veut être aussi le plus fort dans la petitesse. Vous voyez ce que je veux dire ?
Le plus humble.
Je suis le meilleur dans l'humilité. Et à un moment donné, ça provoque une espèce de collapsus, enfin, je ne sais pas comment dire, on se dit non. Ouais. Bon, il se trouve que j'ai présenté dans une émission le récit d'un pèlerin russe. Lui, il est vraiment tout petit. Et il n'est pas toujours en train de dire « Regardez comment je suis tout petit ». Voilà, c'est un peu ça.
On ira se faire une idée en voyant ce film donc sur les chemins noirs de Denis Imbert, qui est à voir cette semaine à Privas, Aubenas, Le Teil, Cruas, Rosières, Lussas. Et d'ailleurs, il est distribué, on parlait de toujours plus, il est distribué dans 1220 cinémas.
Les professionnels apprécieront.
Un petit mot juste pour terminer de ce film qui est projeté ce soir au Teil, film de Tim Burton, Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street.
Ben, il faut aller au Teil ce soir. Ouais,
absolument.
Voilà, donc une reprise de Tim Burton qui est adaptée d'une comédie musicale du début des années 70, je crois. Et savez-vous que cette comédie musicale... 30. Oui, mais est adapté d'une des plus anciennes légendes urbaines, hein, donc du 14e siècle, je crois, à Londres, et un petit peu quelques années plus tard, peut-être à Paris, rue des Marmousets. Alors, qu'est-ce que ça raconte en deux mots? Un juge qui voudrait voler la femme d'un de ses administrés va s'arranger pour le faire condamner. Évidemment, celui-ci s'évade. Se cache à Londres sous un faux nom, donc Sweeney Todd, dans une échoppe de barbier, et les événements vont s'enchaîner et il va être amené à supprimer un certain nombre de... Ce qui est très facile, puisque quand on est barbier, on demande aux gens de lever le cou, on a un rasoir et tout. Alors le problème se pose, comment faire disparaître les corps? Ben, la boulangère qui est en dessous a des idées là-dessus et va très très rapidement faire fortune en vendant des tartes qui font la réputation du quartier. Voilà. Donc c'est du Tim Burton pur jus. Ah, c'est magnifique. C'est en termes d'image, on pourrait je dirais, c'est un film en couleur, mais c'est presque noir et blanc. Et je dirais presque c'est presque noir et rouge même. C'est vraiment on connaît les soucis esthétiques de Tim Burton. Et étant adapté d'une comédie musicale, c'est aussi un film en comédie musicale. Johnny Depp chante, voilà, ouais. Si vous voulez entendre Johnny Depp. Bon, à mon avis, ça, c'est pas la partie la plus réussie du film. Mais le côté de le plus réussi de cette histoire gothique sur la vengeance, l'humour noir, sont les ambiances, les décors et toute cette esthétique qui caractérise Tim Burton.
Donc c'est ce soir, ouais, voilà. Aller au Teil.
En attendant son prochain film, attendu l'année prochaine, qui sera Beetlejuice 2.
Oh, ok, merci. Donc là, c'est ce soir à 18h au Teil. Sinon, juste un petit point agenda. Ce soir, à 20h30, il y a Atlantic Bar aussi, qui est en présence de la réalisatrice Fanny Molin à Lussas. On continue, hein, c'est le printemps documentaire, c'est le troisième opus des films documentaires présentés lors de ce festival documentaire. Donc ce soir à 20h30, Atlantic Bar en présence de la réalisatrice. Et ce film sera aussi projeté au Teil encore dimanche à 18h. Vous pouvez aussi dimanche à 17h, à Privas, allez voir le film Relax de Audrey Ginesté. Eh bien, c'est tout, c'est fini pour ce Cinémascope. Merci à tous ici et merci à toutes et tous, enfin bref, de l'avoir écouté. On se retrouve vendredi prochain.
Au revoir.
D'ici là, bon film.
Voilà. Paris, ça.